Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la maladie de Fabry. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Esther Noël. Docteur Noël, bonjour.
Bonjour.
Docteur Noël, vous êtes médecin interniste au sein des services de médecine interne du CHU de Strasbourg et vous êtes également responsable du centre de compétences adultes de la maladie de Fabry à Strasbourg sous l'égide de la filière G2M. Alors aujourd'hui, on aborde plus particulièrement le diagnostic de la maladie de Fabry. Et pour débuter notre entretien, docteur Noël, devant quels symptômes principaux évoquer une maladie de Fabry ?
Alors d'abord, il faut comprendre que la maladie de Fabry s'exprime certainement un petit peu différemment chez l'enfant et chez l'adulte. Les signes qui prédominent chez l'enfant peuvent exister chez l'adulte, évidemment, et l'inverse est vrai aussi. Mais il y a vraiment un continuum de gravité, en fait, sur le plan en tout cas viscéral. Alors chez l'enfant, les signes sont plutôt fonctionnels, avec peu de substratum clinique, et c'est toute la difficulté de faire le diagnostic de la maladie de Fabry chez les enfants. Alors, au premier lieu, il y a évidemment les douleurs neuropathiques, typiquement à type de brûlure, à évolution centripète, donc qui commencent au niveau des extrémités et qui vont vers le centre. Ce sont des douleurs plutôt chroniques, mais qui évoluent sous forme de crise. Et ce sont les crises souvent qui amènent au diagnostic. Alors, les crises de douleurs neuropathiques des patients Fabry, ce sont des décharges électriques intenses, des fourmillements, des toutes formes en fait, de paresthésie qui évoluent particulièrement lors des modifications de température extérieure ou lors d'épisodes fébriles de la petite enfance. Ce qui fait qu'on a souvent l'impression que ce sont des fièvres douloureuses, si vous voulez. Associé à ça, évidemment, il y a la fatigue, un signe qui est l'hypohydrose et l'anhydrose, rarement diagnostiqués finalement, parce qu'en fait, les gens se plaignent assez peu de ne pas transpirer, mais quand on leur pose la question, ils peuvent le signaler. Les douleurs abdominales, hein, qui sont accompagnées souvent de diarrhée, alors toute la difficulté de faire un diagnostic de Fabry sur un symptôme aussi peu spécifique. Il peut exister également chez l'enfant déjà des signes vestibulaires et une perte auditive, pas si facile à diagnostiquer non plus parce que souvent l'enfant s'en plaint pas et finalement si on fait pas d'audiogramme, on n'a pas le symptôme. Les fameux angiokératomes qui ne sont pas pathognomoniques de la maladie de Fabry, donc ce sont des petits amas vasculaires kératinisés en surface qui peuvent être rouges, un peu violacés et qui prédominent généralement dans la zone dite en caleçon et la fameuse atteinte péri-ombilicale, notamment chez le garçon. Enfin, à l'adolescence notamment, on peut noter un retard de croissance et un retard pubertaire. Alors ça, ce sont des signes finalement relativement fonctionnels avec peu de substratum aux examens complémentaires. C'est vraiment des signes d'interrogatoire qui peuvent, et donc ces signes-là existent aussi chez l'adulte. Chez l'adulte, par contre, c'est l'apanage de l'atteinte viscérale qui peut être symptomatique ou non. Ça commence dans l'adolescence et évidemment, ça évolue dans le temps. Plus on vieillit, plus on a des risques d'être atteint. Alors, ces atteintes sont initialement, comme je l'ai dit, plutôt asymptomatiques. Hein. L'atteinte rénale, par exemple, évolue sous forme de microalbuminurie, de protéinurie, puis d'insuffisance rénale chronique qui va évoluer vers l'insuffisance rénale terminale, la dialyse, éventuellement la greffe. L'atteinte cardiaque, qui se traduit tout d'abord par des anomalies ECG, qui se traduisent par le très classique PR court, des troubles de la conduction, ou les troubles de la dépolarisation en inférolatéral qui sont importants et qui font souvent passer pour des pathologies coronaires, à coronaires normales. Enfin, la cardiomyopathie hypertrophique qui traduit quand même déjà un stade tardif de la pathologie qui peuvent s'accompagner de fibrose myocardique, mais évidemment visible à l'IRM cardiaque. Alors, sur le plan clinique, cette atteinte cardiaque se traduit essentiellement par des troubles conductifs sous forme de bradycardie sinusale qui peuvent conduire à l'administration, aux pauses, d'un pacemaker ou des troubles du rythme ventriculaire avec la pose éventuellement d'un défibrillateur. Alors, sur le plan neurologique, L'atteinte spécifique liée à la maladie de Fabry sont plutôt des accidents vasculaires cérébraux et plutôt de la fosse postérieure en raison de l'atteinte microcirculatoire prédominante. Alors, chaque symptôme pris individuellement peut évidemment évoquer une maladie de Fabry, mais ne pas oublier qu'évidemment, plus on groupe des symptômes entre eux, plus on a des chances, si j'ose dire, d'évoquer la pathologie. Je pense particulièrement aux acroparesthésies, pour lesquelles il n'est pas tout à fait inconcevable de réaliser, par exemple, une bandelette urinaire pour voir si le patient n'a pas une microalbuminurie ou une protéinurie qui pourrait faire rentrer cette maladie de Fabry post-symptomatique vers une pathologie plutôt systémique.
Et donc, devant ces symptômes, comment établir le diagnostic de la maladie de Fabry ?
Alors, j'aimerais juste revenir sur une notion qui est la transmission génétique de la pathologie. La maladie de Fabry est une maladie génétique liée à l'X, dont la transmission se fait liée à l'X, et elle est génotypiquement déterminée, c'est-à-dire que en fonction du variant, on peut déterminer soit une maladie de Fabry classique, et dans quel cas on pourra avoir l'ensemble de la symptomatologie, soit plutôt un variant late onset ou variant cardiaque, et dans quel cas on aura une atteinte cardiaque très largement prédominante, avec possiblement une petite microalbuminurie, mais pas d'autres signes d'atteinte extracardiaque, c'est-à-dire pas d'angiokératome, pas d'acroparesthésie et pas cette fameuse cornée verticillée qui est l'atteinte de la cornée en rayon de roue avec des dépôts de l'isogb3 sur lesquels je vais revenir. On évoque déjà de manière différentielle la maladie de Fabry en fonction de l'atteinte clinique. Ensuite, comment confirmer le diagnostic ? La confirmation du diagnostic se fait un petit peu différemment chez la femme et chez l'homme. Chez l'homme, le diagnostic peut se faire par dosage enzymatique sur papier buvard avec une activité enzymatique totalement effondrée chez le garçon variant classique, alors que le variant cardiaque peut avoir une activité enzymatique qui tourne encore aux alentours de 15% de l'activité standard. Il convient évidemment de confirmer cette analyse enzymatique de l'alpha-galactosidase A par une analyse génétique qui permettra d'abord de confirmer par un deuxième dosage cette maladie de Fabry, ensuite de déterminer le variant classique ou le variant cardiaque puisqu'il est génétiquement déterminé et ensuite permettra l'analyse du familial qui est indispensable. On peut enfin s'aider du lyso-Gb3 plasmatique qui permettra surtout un suivi thérapeutique qui est très augmenté chez le patient Fabry classique. Chez le variant cardiaque, ce dosage est également augmenté chez le patient masculin, mais dans des proportions bien moindres. Chez la femme, le diagnostic enzymatique est plus compliqué car ce dosage peut être normal dans un certain nombre de cas chez la femme. Donc, le diagnostic se fait essentiellement sur l'analyse génétique. Alors, un tout petit mot pour l'analyse génétique chez la femme. Il peut exister des analyses génétiques pour lesquelles on donne une mutation dans le gène Fabry qui peut être un variant bénin. Et ce n'est pas parce qu'on a une mutation dans le gène Fabry qu'on a forcément une maladie de Fabry. Donc, il va falloir absolument se faire aider par les généticiens pour évaluer la pathogénicité de la mutation et évidemment la corréler à une symptomatologie clinique qui peut être cependant trompeuse. Et enfin, je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se passer de l'étude de la lyonisation de l'X chez la femme qui va pouvoir prédire l'évolution des différentes atteintes. En effet, s'il n'y a pas de biais d'inactivation, c'est-à-dire que si l'inactivation de l'X se fait de manière aléatoire chez la femme, celle-ci va avoir une activité enzymatique résiduelle et qui ne va pas du tout la protéger de faire une atteinte viscérale de la maladie de Fabry, mais qui va orienter possiblement cette atteinte vers une atteinte cardiaque prédominante quand même. Il convient maintenant d'évaluer chez les enfants les atteintes vers l'âge de 5 ans pour les garçons et 12-15 ans chez les filles en envisageant le traitement chez les garçons vers l'âge de 7 ans. Ce qui veut dire en pratique qu'il convient de faire l'analyse éventuellement présymptomatique à un âge relativement précoce chez les enfants. Je me permets encore de souligner la nécessité absolue d'une enquête familiale, puisque vous l'avez compris, les atteintes peuvent rester longtemps asymptomatiques, notamment chez la femme et dans le variant cardiaque. Donc, il convient absolument d'aller dépister par l'analyse génétique les différents membres d'une famille quand on a un sujet index.
Et dans ce cas, quels sont les diagnostics différentiels à écarter ?
Les diagnostics différentiels sont nombreux. Dans l'enfance, le diagnostic principal est celui des douleurs, en fait. Des douleurs et principalement des douleurs neurologiques qui apparaissent particulièrement pendant les épisodes fébriles de la petite enfance. Et donc, on a des diagnostics différentiels que sont, par exemple, la maladie de Still, les arthrites chroniques juvéniles ou les pathologies auto-inflammatoires qu'on évoque dans la petite enfance. Chez l'adulte, les diagnostics différentiels se font appareil par appareil, mais en premier lieu, le gros diagnostic différentiel, c'est celui de l'atteinte du système nerveux central, avec le diagnostic le plus souvent évoqué chez la femme notamment, c'est la sclérose en plaques. Pour le cœur, toutes les atteintes à l'origine du cardiomyopathie hypertrophique et tout d'abord les cardiomyopathies sarcomériques. Pour le rein, toutes les pathologies vasculaires ou autres rénales qui entraînent une microalbuminurie, une protéinurie, une insuffisance rénale terminale. Il ne faut pas oublier que la maladie de Fabry est une maladie de surcharge, plutôt expression vasculaire et fibrosante. Donc toute pathologie vasculaire et éventuellement fibrosante peut être le diagnostic différentiel d'une maladie de Fabry.
Et enfin, docteur Noël, une fois ce diagnostic établi, à qui adresser ces patients ?
Alors, je pense qu'il faut travailler avec les centres de compétences, de référence, afin de s'aider notamment dans deux choses principales que sont la pathogénicité de la mutation et l'indication de mise sous traitement.
Eh bien, merci mille fois, docteur Noël, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la maladie de Fabry. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !